Land Voice. Informer les communautés locales du département de l'océan sur les droits fonciers et aux ressources naturelles, tel est le fil conducteur de cette émission diffusée sur les ondes de Radio Kouli Makeli. Nous émettons depuis Kribi, chef-lieu du département de l'océan, région du Sud Cameroun. Land Voice, c'est tous les lundis, entre 10h et 11h. Avec l'appui financier de l'Union européenne, ce programme est une production du réseau de lutte contre la faim RELUFA dans le cadre du programme LandCam, mené en collaboration avec le Centre pour l'environnement et le développement CED et l'Institut international pour l'environnement et le développement IIED. Microphone de présentation, Emmanuel Junta.
Land Voice, le sommaire.
C'est le sujet dont tout le monde parle actuellement dans chaque village qui partage les limites avec la socapalme Kienke dans le département de l'océan. Toutes les communautés, que ce soit les Mapi, les Boulou ou les Bagili, ont déjà au moins entendu parler de la RSPO, qui signifie en français table ronde pour l'huile de palme durable. Ici, l'on préfère résumer cette démarche par une phrase simple. La socapalm est à la recherche de la certification. Au contact avec les communautés, elle vous raconte ce qui s'est déjà passé depuis que la socapalm est dans cette démarche. Qui est venu les voir? De quoi elles ont parlé avec la socapalm ou encore avec les auditeurs de la RSPO? Deux constats sautent à l'œil. Premier constat, la socapalm tient effectivement à décrocher une certification RSPO. Deuxième constat, les communautés riveraines de l'agro-industrie de l'huile de palme attendent que la socapalme change beaucoup de choses dans sa façon de traiter les riverains, son personnel, dans l'occupation des terres et surtout de la gestion des problèmes environnementaux pour une éventuelle certification RSPO de la plantation Kienke. Ce niveau de compréhension de la RSPO nous impose à aborder ce thème au cours de cette émission. Au juste, c'est quoi la RSPO? Depuis combien de temps parle-t-on de RSPO? Quelle est la procédure à suivre par une agro-industrie qui veut être certifiée RSPO? Comment les consultations doivent-elles être menées? Qui décide de la certification RSPO? Pourquoi la socapalm veut-elle avoir une certification? Les communautés ont-elles leur mot à dire? Que peuvent-elles faire si une agro-industrie de l'huile de palme obtient une certification RSPO sans que leur doléance ait été véritablement prise en compte? Dans les prochaines minutes, vous aurez des réponses à ces questions et à bien d'autres à travers nos rubriques habituelles. Le reportage sur la RSPO de la plantation Kienke, qu'en pensent les riverains et les responsables de la socapalm? Le Vox Pop, question aux riverains. En l'état actuel, pensez-vous que la certification RSPO soit un acquis pour la socapalm? L'invité du jour, c'est Michèle Sonkwe. Elle est facilitatrice de la stratégie nationale d'engagement qui traite des questions en rapport avec la gouvernance foncière au Cameroun. À suivre dans quelques instants, l'éditorial ou le point de vue sur le sujet du jour. À toutes les communautés à l'écoute de Radio Kouli Makeli et de l'émission Land Voice, votre fidélité nous honore.
Vous écoutez Land Voice sur Radio Kouli Makeli. Land Voice, l'éditorial.
La RSPO, appelée en français Table ronde pour l'huile de palme durable, est une association à but non lucratif créée en 2004. lorsque cette association voit le jour grâce à une initiative du Fonds mondial pour la nature, plus connue sous l'abréviation WWF, il y a partout dans le monde un besoin urgent en huile de palme durable. En ce moment-là, les rapports, les études, les enquêtes sont accablants sur la production industrielle de l'huile de palme en Afrique et en Asie du Sud-Est. La monoculture du palmier à huile était en train de tout détruire. Les terres, les forêts, l'environnement, le mode de vie des communautés que les agro-industries ont trouvées sur place, sans améliorer pour autant le niveau de vie des dites communautés. Sept parties prenantes du secteur de l'huile de palme industrielle ont donc décidé de se réunir pour changer cette situation. Il s'agit des producteurs d'huile de palme, les sociétés agroalimentaires ou encore les distributeurs, les fabricants de biens de consommation, les détaillants, les banques et les investisseurs, les ONG de protection de l'environnement et de la nature et les ONG de développement ou social. Il a été arrêté des normes mondiales pour la production de l'huile de palme durable et le tout est contrôlé régulièrement depuis le siège de l'association RSPO qui se trouve à Zurich en Suisse. Il est à préciser que la RSPO fonctionne sur une base volontaire dans le sens où les entreprises décident d'adhérer ou non au programme. Mais le fait d'être non certifié ne fait pas bonne publicité à l'entreprise car ses produits sont jugés mauvais. La RSPO veut donc que les pratiques de production de l'huile de palme réduisent la déforestation, préservent la biodiversité et respectent les moyens de subsistance des communautés rurales dans les pays producteurs de l'huile de palme. La RSPO exige aussi qu'une nouvelle forêt primaire ou autre espace à haute valeur de conservation ne soit pas sacrifié pour des plantations d'huile de palme ou que les plantations appliquent des meilleures pratiques acceptées et que les droits fondamentaux et les conditions de vie des millions de travailleurs dans les plantations de petits agriculteurs et de populations autochtones soient respectés. Depuis novembre 2005, la RSPO a introduit dans ses principes et critères la réduction au maximum de l'impact sur l'environnement des propriétaires de moulins et de plantations. Cependant, il est bon de noter que la RSPO est une initiative de normalisation. Il ne s'agit pas d'un organisme de surveillance légale ou d'une autorité de police. Les décideurs, c'est-à-dire le groupe d'entreprises et d'ONG membres de la table ronde, gèrent également le processus de supervision et d'audit au sein de la RSPO. La surveillance et l'audit sont effectués par des intervenants nommés par l'industrie et non par le gouvernement qui sont également payés par les parties prenantes de l'industrie, ce qui constitue un conflit d'intérêts majeurs. La marque déposée de la RSPO a été lancée sur le marché en juin 2011. Les membres peuvent utiliser la marque déposée pour leur communication sur les emballages pour les produits contenant des ingrédients dérivés de l'huile de palme durable. À ce stade, les communautés du département de l'océan peuvent se faire déjà une idée du rôle, du poids et de la responsabilité qu'elles ont dans la démarche de certification RSPO de la plantation Soca Palme Kienke. En réalité, elles sont dans la position de se faire écouter et entendre par l'agro-industrie qui souhaite entrer dans le club des entreprises certifiées RSPO. C'est une belle occasion pour obtenir des changements sur les pratiques décriées du groupe Socfin dans leur département. Il faut donc que les communautés aient le courage de présenter à l'organe qui fait l'audit de la Soca Palme Kienke ce qui ne va pas, ce que la société ne devrait plus faire, ou alors les améliorations constatées dans leur rapport. En réalité, chaque réponse des communautés riveraines va écrire le devenir de leur cohabitation avec la Soca Palme. Si le passé n'a pas été glorieux, la circonstance actuelle de la RSPO peut rendre le présent et le futur meilleur. Pour une fois, les deux parties sont comme sur la même ligne de départ dans la course pour la RSPO. Une question se pose cependant. La contestation par les communautés du certificat RSPO de la Safakam, filiale de la Soca Palme, est-elle un mauvais signe pour la plantation Kienke? Seul le temps nous le dira.
Land Voice, le reportage.
Que Que sait-on exactement de la RSPO au sein des communautés dans le département de l'Océan? À ce jour, l'agro-industrie Socapalme s'est lancée à la recherche de la certification de la plantation Kenke. Au bout de la procédure, cela va signifier que ces pratiques de production industrielle d'huile de palme ne créent pas de problème aux riverains, à l'environnement, mais tient également compte des besoins des employés. Les auditeurs sont déjà passés sur place pour poser certaines questions aux communautés dans les villages riverains. La Socapalme aussi ne cesse de rencontrer les communautés pour leur parler de la RSPO. Alors que l'agro-industrie espère une certification, les communautés dans leur écrasante majorité posent encore beaucoup de conditions. Salomon Albert Tap a interrogé les uns et les autres. Voici son reportage.
L'huile de palme produite au Cameroun par les agro-industries cause-t-elle des problèmes ? La question n'est plus à se poser si l'on écoute les nombreuses plaintes des communautés riveraines de ces dernières. Pollution de l'environnement, comme par exemple des rivières, augmentation de la pauvreté des communautés, disparition de la forêt, problèmes sur les terres occupées par ces agro-industries. La liste des plaintes est longue quand on aborde la production de l'huile de palme industrielle au Cameroun et surtout dans le département de l'Océan. Ces plaintes sont donc la preuve que l'huile de palme n'est pas encore durable au Cameroun. C'est l'an dernier, le 30 décembre 2020, que la certification RSPO a été attribuée à une première société de production d'huile de palme au Cameroun. Il s'agit de la Safacam, qui appartient au groupe Socfin. Et parmi les sociétés du groupe Socfin, il y a aussi la Socapalm. La société camerounaise de palmeraie s'est donc aussi lancée dans une démarche d'obtention de la certification RSPO. Cette attribution va permettre aux plantations de la Socapalm d'entrer dans le club fermé des agro-industries qui produisent de l'huile de palme durable. 8 principes et 32 critères pratiques ont été arrêtés par la table ronde pour définir la production durable de l'huile de palme. Parmi ces principes et critères, l'un vise à s'assurer que l'utilisation du terrain pour la production du palmier à huile ne diminue ou n'amoindrit pas les droits légaux, coutumiers ou d'usage des autres utilisateurs sans leur consentement libre, informé et préalable. La Socapalm a pris certaines mesures pour ce faire, selon Roussel Barbara Lienou, assistante de direction et chargée de la communication.
Dans le cadre de la démarche RSPO, nous avons stoppé les expansions, ce qui veut dire que les 37 000 hectares régulièrement plantés vont demeurer les surfaces qui seront exploitées par la Socapalm. La Socapalm a loué auprès de l'État 78 000 hectares en 2000 lors de la privatisation et il y a une révision à ce bail en 2005 qui nous a ramené à 58 000 hectares environ de terre. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que 37 000 hectares qui sont réellement plantés et exploités par la Socapalm, ce qui nous laisse une grosse marge dans le cadre de ce qui nous est dû à travers ce bail amphithéotique non exploité.
La Socapalm dit d'ailleurs avoir corrigé sa façon de fonctionner dans certains domaines, adoptant des mesures qui tiennent en compte les exigences de la table ronde sur l'huile de palme durable. La Socapalm pense parvenir ainsi à améliorer ses points faibles, à abandonner les mesures interdites par la table ronde et à mettre en pratique de nouvelles. Une batterie d'actions contenue dans la politique de gestion responsable signée le 22 mars 2017 par le groupe Socfin, propriétaire de la Socapalm. Germain Jules Kamta, chef de département des ressources humaines à la Socapalm.
La Socapalm s'est engagée dans une gestion responsable de ses activités, ce qui inclut la mise en œuvre de meilleures pratiques agricoles et de gestion. La réduction et prévention de ses impacts environnementaux. Une communication ouverte et transparente avec ses parties prenantes, y compris les communautés villageoises. Le développement de politiques et procédures respectueuses des droits de l'homme, interdisant le travail des enfants et toute forme de discrimination. Donc, la certification RSPO s'inscrit dans cette démarche de gestion responsable. Dans le long terme, à travers le respect des indicateurs, des principes et critères de la RSPO, qui couvre toutes les questions de transparence, de la communication, du respect des exigences légales et environnementales, mais également le respect des droits humains des employés, des parties prenantes et des communautés particulièrement.
L'assurance que les communautés locales, les travailleurs dans les plantations, les petits agriculteurs, leurs familles sont respectées et que les industries de production réduisent au maximum leur impact sur l'environnement sont aussi des critères importants pour obtenir la certification RSPO. Sur ces critères, justement, qui posent le problème du développement des populations des communautés locales, la Socarpalm Kienke est souvent indexée de ne pas prendre en compte les peuples autochtones de forêt, notamment ceux de Kilombo 1, riveraines à leurs plantations. Un sérieux manquement aux critères de la RSPO, auxquels il faut ajouter d'autres plaintes liées à la pollution de l'environnement. Approché par l'équipe de Land Voice, Jacques-Pierre Ndoumbok Nyamsi, consultant Socarpalm, explique.
La Socarpalm déjà a un programme établi de développement durable qui ne concerne pas seulement les Bagueli de Kilombo, mais 9 communautés de Bagueli autour de la plantation. Et la Socarpalm, la plantation Kink est un acteur important dans l'environnement de la communauté et favorise autant que possible les diverses initiatives mises en place, l'intégration, le développement et la protection des peuples Bagueli, qui font partie des peuples autochtones, qui doivent avoir une considération particulière par rapport à d'autres populations riveraines. Un plan d'action a été mis, défini et étudié par la SCOPA, mis en place également, qui se décline en trois points. Il y a d'abord la santé, l'éducation et la citoyenneté qu'on est en train de commencer. En ce qui concerne la santé, les peuples autochtones sont entièrement pris en charge par la SOCAPAM dans une rubrique qu'on appelle au niveau des infirmeries les bons samaritains. Donc, et même aussi, on améliore davantage parce qu'en cas de problème grave, des communautés, même les Bagueli, ils sont pris en charge rapidement hors de la plantation même. Il y a de l'ambulance qui peut les transporter vers la ville pour les cas les plus importants. D'ailleurs, j'ai été au Kilombo il y a peut-être 2 ou 3 mois où une femme avait des problèmes d'accouchement. Elle avait un des pieds de l'enfant, du bébé, qui ne sortait pas. On avait fait partir le médecin de l'infirmerie principale de la SOCAPAM aller faire cette intervention au Kilombo, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Pour la scolarisation, donc pour l'éducation, le peuple autochtone a une école au Kilombo. Cette école est entièrement prise en charge par la SOCAPAM, qui donne des uniformes scolaires aux élèves, qui leur donne tout ce qu'il y a comme fourniture scolaire, qui leur donne aussi le matériel didactique aux maîtres et prend en charge entièrement les charges des maîtres. Donc voilà ce qui est fait. Et maintenant, pour la citoyenneté, comme je disais, il y a la SOCAPAM a entrepris des démarches avec les autorités, le BUNEC, je crois, pour déjà mettre en place un programme qui leur permettra d'être identifiés et avoir des actes de naissance. Et plus tard, donc immédiatement après l'autorisation des actes de naissance, de tout faire pour qu'ils aient les cadres nationaux d'identité.
L'agro-industrie dit s'être préparée dans le cadre de sa certification RSPO, raison pour laquelle des changements ont été faits afin de prendre en compte les principes et les critères de la table ronde sur l'huile de palme durable. Germain-Jules Kamta, chef de département des ressources humaines à la SOCAPAM.
La SOCAPAM s'est préparée à plusieurs niveaux. Elle a mis à jour ses procédures, ses politiques sur des aspects de surveillance, les plans de surveillance afin de répondre aux exigences des principes et critères de la RSPO, ainsi que celles du standard de la chaîne d'approvisionnement. Sur le terrain, SOCAPAM a renforcé son programme de communication, de sensibilisation et de formation. C'est à travers cette démarche multiple d'informations internes et externes et le soutien de toutes les parties prenantes que la SOCAPAM s'est préparée à cet effet.
Est-ce que vous avez donc, à cet effet, par exemple, rencontré au préalable les communautés pour leur parler de ce processus de certification?
Je vais dire oui. Le processus de certification au standard RSPO s'inscrit dans une démarche de consultation participative avec les communautés. D'autre part, certaines étapes du processus RSPO requièrent des études annexes, toujours réalisées en consultation participative, telles que les études d'identification des zones HVC, haute valeur de conservation, ou encore des plans de gestion environnementaux et sociaux.
Dans certaines communautés locales, comme celle du village Pungo Aviation, riverains aux plantations de la Socapalme Kienke, on a bien une idée de la démarche de certification RSPO initiée par l'agro-industrie, du moins ses exigences.
Ce que nous savons, c'est que la RSPO a un certain nombre d'exigences vis-à-vis de notre voisin. Moi, je préfère l'appeler comme ça. Des exigences en termes environnementaux, en termes fonciers, en termes... L'acquisition ou l'obtention de ce sésame passe également par ces questions-là.
Et quel est le rôle de la communauté pour permettre peut-être à la société d'obtenir ce sésame ou de ne pas l'obtenir?
Il faut rappeler que, contrairement à ce que pense l'imagerie populaire, certains acteurs sont là pour noyer Socapalme. Non, nous voulons tout simplement que notre voisin s'améliore sur un certain nombre d'aspects. Donc, pour ce qui concerne Pungo Aviation, nous voulons que Socapalme soit en règle sur des questions qui nous concernent directement afin d'obtenir sa certification.
L'implication des communautés locales est une exigence des critères et principes du processus de certification RSPO. Et l'agro-industrie dit la respecter dans sa démarche RSPO, entreprise depuis lors. Jacques-Pierre Doumbok-Nyamsi, consultant Socapalme, explique.
On est dans un processus de certification RSPO à présent, et on n'a pas mis de côté les peuples autochtones. Les peuples autochtones ont été sensibilisés en leur langue, et il y a des preuves de cette sensibilisation. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de comprendre, parce que la sensibilisation ne s'arrêtera pas là. On passera de temps en temps voir s'ils ont compris et ce qu'il faut faire pour eux.
Les communautés alors, que pensent-elles de leur niveau d'implication? Que disent-elles à l'occasion pendant ces différents échanges? Gérard Patrice Mia est membre de l'association Les Bons Voisins. Dans le cadre des consultations des parties prenantes, selon les principes et critères de certification RSPO, son association a eu des échanges avec l'auditeur chargé de la démarche RSPO de l'agro-industrie. Il partage avec nous ce qu'ils ont dit à l'occasion.
On leur a d'abord montré beaucoup de choses qui se sont faites entre la Socapalme et les chaufferies que nous avons découvert que ce n'était pas bien.
Lesquelles?
La signature de... Qu'est-ce que nous avons appelé? D'un mémorandum d'entente entre la Socapalme et les riverains, représenté par les chefs, et où c'est un chef qui devrait signer ce mémorandum d'entente en compagnie de deux notables. On a vu ce mémorandum d'entente être signé par le seul chef lui-même et qui signait par ordre au lieu et place des notables. Donc, M. Quadio, j'espère, on lui a posé ce problème avec preuve à l'appui. Il dit, vous voyez, voilà les signatures. Et on est passé, on n'en dira jamais assez, on lui a fait poser le problème foncier. C'est le nœud central du... des bonnes relations qui pourraient vivre et exister entre la Socapalme et les riverains.
Avec cette démarche RSPO, les communautés locales sont au cœur de nombreuses sollicitations. Ces rencontres offrent l'occasion aux membres des communautés de signaler ce qu'ils ont comme difficultés liées directement à la présence des plantations de l'agro-industrie. Hervé César Bimpa nous fait l'économie de la rencontre entre sa communauté et l'auditeur de certification RSPO.
Alors, le dernier en date, c'est un certain Quadio qui nous avait reçu cette fois-là. Nous avons échangé sur toutes ces questions. Nous avons passé en revue des questions environnementales, questions foncières, questions sécuritaires. C'était, je crois, 30 à 45 minutes d'échange.
C'était à votre demande ou sur sa demande?
Sur sa demande.
Voilà. Et il vous disait explicitement qu'il prenait ces informations pour la RSPO.
Tout à fait.
La rencontre s'est déroulée où? Vous avez été informé combien de temps avant?
La rencontre s'est déroulée à Ebomé, un village riverain. Il hébergeait en face dans un hôtel. Mm-hmm. Donc c'est dans ce village-là que s'est déroulée la
rencontre. Qui était représenté? Il y avait les hommes, il y avait les femmes, il y avait les jeunes. Pour parler à M. Kouadio, qui...
Ben, il y avait des hommes et des femmes.
Et la deuxième fois, vous avez dit que la première fois c'était...
Bon, la deuxième fois c'était avec les populations de Pongo Aviation. Je n'y étais pas malheureusement cette fois-là.
Et on vous a dit ce que M. Kouadio a dit à l'occasion?
Oui.
Quoi par exemple?
C'était exactement la même chose. On a parlé des questions foncières, environnementales, sécuritaire. Ils avaient parlé de toutes ces problématiques-là.
Les consultations des parties prenantes étant obligatoires dans la démarche de la certification RSPO, elles doivent en plus respecter les principes et les critères du système de certification. Bidou 3, dans l'arrondissement de Niété, région du Sud, compte parmi les 20 villages riverains des plantations de la Soka Palm Kinké. La démarche de la certification RSPO initiée par l'agro-industrie, on en parle également ici. Sa Majesté Zé Richard, chef du village de Bitou 3, a trouvé dans ce processus une aubaine pour les riverains de la Soka Palm de pouvoir bénéficier enfin de certains avantages.
Ils sont passés. Quand je vous dis que cette tripartite qui est là maintenant, c'est par rapport à ça, à cette certification. C'est nous les gens qui sommes toujours parce qu'ils veulent la certification de nous. Nous, on voit la poutrie, comment ça se passe. S'ils veulent la certification, bien sûr, ils veulent la certification et ils sont venus dessus.
Alors, quand ils sont passés, si ça s'est passé comment, Majesté?
En tout cas, on a dialogué.
On vous a envoyé une invitation et vous avez convoqué la
communauté. Ils ont envoyé l'invitation, j'ai convoqué tout le monde. On a dialogué ici.
Et ce jour-là, qu'est-ce que vous leur avez dit?
Non,
c'était les certificateurs qui étaient là, n'est-ce pas?
On les a présentés. Hein? On les a plantés, en grosso modo, hein, les problèmes qu'ils nous disent avec la Soka Palm.
Et c'était quel, vous avez dit quoi, Majesté?
On a parlé d'abord des limites des terres. Hein? On les a présentés quel Soka Palm. Depuis que la Soka Palm est créée, nous ici, on n'a pas savoir bénéficier quelque chose de la Soka Palm. Et la bouche des enfants, et rien. On les a présentés tout ça. Ils ont noté. Ils ont noté. On les a présentés, en grosso modo, hein, des problèmes qui nous lient avec la Soka Palm. Parce que la Soka Palm, depuis 1975, bien sûr, on était encore des enfants. C'est nos parents qui étaient les chefs, hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout change. Hein. Nous sommes là maintenant éveillés, on regarde, que, mais nos parents, ils n'ont pas bien managé avec ces gens-ci. Hein. Automatiquement, nous ici, maintenant, il faut qu'on ménage les choses que nos grands-parents n'ont pas pu faire. C'est ça.
Et ce monsieur, les gens de la RSPO, ils vous ont dit ce à quoi devaient servir les informations que vous leur donniez?
Non, bien sûr, pour eux maintenant, je peux dire que la Soka Palm respecte. Parce qu'en toute chose maintenant, ils envoient les notes. Hein? Ils envoient peut-être une campagne de sensibilisation. Ils nous sensibilisent que quelques jours, nous serons produits avec les populations libres de droit. Pour ça, aujourd'hui, ils le font. Je ne peux pas dire ils le font. Parce qu'il ne faut quand même pas être un peu méchant. Ils le font aujourd'hui. Pour ça, ils le font.
Donc vous pensez que la certification est peut-être une bonne chose pour les communautés riveraines?
En tout cas, c'est une bonne chose. Parce que la nuit qu'on a commencé là, moi je crois que je vois, hein, déjà que les choses vont commencer à s'ouvrir.
Les principes et critères du système de certification RSPO peuvent parfois se retourner contre l'organisme qui fait la démarche sur le terrain. En effet, sous la base de ce qu'elle considère comme manquement aux critères et principes de la table ronde sur l'huile de palme durable, les communautés locales peuvent contester la certification RSPO attribuée à une agro-industrie. Au Cameroun, certaines communautés et la Sidna Barkam ont contesté la certification RSPO de la Safakam qui lui a été attribuée après 2 ans de démarche par l'organisme de certification SCS Global Service. Une recherche commandée par l'ONG néerlandaise Milieu Defensie entre décembre 2020 et janvier 2021 sur les processus de certification RSPO et d'audit et de consultation pour Safakam a conclu que plusieurs articles de la norme RSPO sur les systèmes de certification pour les principes et les critères ont été violés par la SCS. Ainsi, selon les conclusions de cette recherche, l'annonce des consultations n'avait pas été faite en langue locale. L'audit n'a pas permis de recueillir les preuves auprès des parties prenantes et sur toutes les questions. L'indépendance de l'audit a été remise en question par les communautés. La confidentialité et un espace sûr n'ont pas été assurés par l'organisme auditeur. Selon cette analyse et au regard des violations des exigences de consultation par cet organisme, la décision de certification était selon elle nulle et non avenue. Guy Patrice Camela est socio-anthropologue et consultant en gestion de ressources naturelles. Il explique que cette contestation de communauté doit être prise au sérieux pour éviter d'autres contestations de la RSPO à l'avenir.
Ce qu'on observe dans ce processus de certification, c'est que visiblement, il y a des principes et critères qu'il faut respecter, n'est-ce pas ? Et on se rend compte que la mise en œuvre de ces principes et critères est défaillante de la part du certificateur, de la part de l'organisme qui conduit l'audit. Et donc, on a le sentiment que les problèmes ne sont pas abordés. Les problèmes sont mis sous le boisseau, on recule face aux vrais problèmes. Les problèmes de terre, par exemple. On n'aborde pas ça de front, on met ça sous le boisseau. Et si ça évolue comme ça, et il me semble que c'est un précédent dangereux. Parce que, voyez-vous, ça donnerait un peu comme une caution si d'autres certificats sont octroyés de la même façon. Parce qu'il y a ce passif que les communautés soulignent, qu'il faut aborder, regarder en face, pour s'assurer que, le certificat qu'on donne concerne effectivement le palmier à huile durable. Et il n'y aura pas de durabilité tant que certaines entités dans la chaîne du palmier à huile, notamment les communautés locales, sont lésées. Donc il faut vraiment prendre cela au sérieux et prévenir les autres processus qui vont suivre. Parce que si ça continue dans cette lancée, il me semble que ça présage une implosion beaucoup plus tard.
La certification RSPO permet à l'entreprise qui la reçoit une ouverture plus large sur le marché national et international. C'est-à-dire que la société dont les plantations sont certifiées RSPO peut vendre l'huile qu'elle produit en plus de son pays d'origine dans tous les pays du monde où jusqu'ici cela n'était pas possible. Cette certification prouve que l'entreprise respecte les bonnes pratiques de production, les intérêts des communautés locales, l'efficience dans le circuit de production et qu'elle satisfait la demande des consommateurs et respecte l'environnement et la société. Cette certification prouve que l'entreprise respecte les bonnes pratiques de production, les intérêts des communautés locales, l'efficience dans le circuit de production et qu'elle satisfait la demande des consommateurs et le respect de l'environnement et de la société. La certification RSPO donne aussi l'opportunité à l'entreprise de pouvoir recevoir des financements de diverses banques dans le monde. Les communautés riveraines de l'agro-industrie le savent. Et l'occasion qu'offre cette démarche de certification RSPO doit aboutir, selon certains de leurs membres, à une opération gagnant-gagnant entre elle et l'agro-industrie. Gérard Patrice Migna est originaire de Punga Aviation, un village riverain aux plantations Soka Palm, Kienke.
Pour avoir une certification, il faut qu'on s'assure que les engagements seront pris et respectés. Ça veut dire qu'au niveau de la gestion des conflits avec les riverains, au niveau de la gestion de leur personnel, au niveau de l'environnement, est-ce que pour le moment, la SOCAPAM est prête à le faire? Auquel cas, si ces préalables sont posés, si ces préalables sont bien définis, ben je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. La SOCAPAM gagne sa certification et les riverains aussi savent désormais que, ou alors sauront désormais que, avec la SOCAPAM, voilà ce qui s'est passé.
On n'en est pas encore là pour l'heure. En tout cas, on ne perd rien à attendre. Loin des pronostics des uns et des autres, la certification RSPO apparaît néanmoins comme un instrument qui permet de calmer les tensions entre communautés et agro-industries productrices de l'huile de palme et de prendre en compte les intérêts des différents acteurs engagés dans ce processus. D'où l'importance pour les auditeurs de certification RSPO, de faire leur travail dans le strict respect des principes et critères arrêtés par la table ronde pour l'huile de palme durable.
Question aux riverains de la Socapalme Kienke dans le département de l'Océan. En l'état actuel, pensez-vous que la certification RSPO peut être accordée à la Socapalme? Écoutons ces réponses recueillies dans quelques villages limitrophes.
Je dirais que sur le plan RSPO, la Socapalme a beaucoup à faire. Parce que sur le plan environnemental, nous avons tous ces problèmes que nous connaissons dans notre village causés par la Socapalme. Depuis que la Socapalme s'est implantée, nous n'avons pas eu tellement de problèmes avec la Socapalme. La Socapalme et nous rentrons en altercation dès lors qu'ils ont entrepris de faire les extensions. Si vous allez vers le côté nord, là où ils appellent le nord, nous avons des centaines d'hectares de terrain que nous avons immatriculés. Nous avons engagé même la procédure de lotissement. La Socapalme est venue mettre un terme à ces travaux. Nous avons demandé avec les autorités que l'on descende sur le terrain. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait depuis 3 ans, on est au statu quo. Vous comprenez donc, à ce niveau précis, qu'est-ce que nous pouvons bien dire de la Socapalme alors que nous sommes dans ce grand besoin? Nous avons tout le côté sud qui est déjà occupé. La palmeraie et tout, c'est occupé, n'est-ce pas? Nous avons le côté ex. Est-ce que l'ONAREF a pris? Ça, c'est vrai. Alors, la seule parcelle qui nous restait, là où nous fondions nos espoirs, c'est le côté nord, avec ces immatriculations. Alors, vous pensez qu'un village qui presque n'existe même plus sur la carte, parce que si on le possède des terres, n'est-ce pas, qui sont vers le côté nord, ça veut dire que le village, pour moi, risque même de ne pas exister sur la carte du Cameroun, parce que nous sommes sur l'emprise aéroportuaire. Notre village, pour nous, et dans l'emprise aéroportuaire. Alors, nous pensions que si l'aéroport de Kribi devient un aéroport international, nous partions de là où nous sommes pour aller nous installer du côté nord. Et voilà que la Socapalme est en train de faire le blocus. Et vous croyez que nous allons être contre la Socapalme? Vous pensez qu'un village peut être fier d'exister sans terre? Nous allons faire comment? D'abord, pour s'installer, nous allons construire où? Nous allons faire des champs où nous sommes pour la plupart des villageois qui vivent, n'est-ce pas, depuis... Des petits travaux champêtres, des petits champs et autres. Nous allons faire quoi? Tout est bloqué. L'environnement, on ne respire pas. Alors vous pensez que nous, on ne peut pas, ils ne passeront pas par nous pour avoir notre accord.
Nous voulons que nos voisins fassent plus d'efforts. Donc je suis un peu dubitatif à ce sujet. Quant à l'obtention ou bien l'acquisition de la certification.
Land Voice, l'invité du jour.
Les organismes de la société civile sont des parties prenantes de la démarche de certification RSPO. Elles alertent sur la manière dont les consultations sont menées, mais elles peuvent aussi éduquer, sensibiliser les communautés sur la RSPO avant, au cours ou après la certification. Pour tout savoir sur ce processus, quels sont ses avantages pour les communautés, les limites, les bonnes démarches à suivre par l'auditeur, le contrôle de ce processus par les communautés, ces sujets sont abordés dans cet entretien.
Michel, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez très bien vous présenter pour les auditeurs de Radio Nkuli Makeli?
Je suis Michel Sankwe, je suis facilitatrice de la Stratégie nationale d'engagement pour la gouvernance foncière au Cameroun. C'est une plateforme multi-acteurs qui travaille sur les questions de gouvernance des terres.
Aujourd'hui, vous allez nous aider à comprendre ce que c'est que la RSPO, quels sont les avantages, les limites, qu'est-ce que les communautés peuvent tirer, ou bien est-ce que les communautés peuvent tirer certains avantages de ce processus. Je pense que c'est un processus, en tout cas, vous allez nous expliquer cela tout à l'heure. En français facile, c'est quoi la RSPO?
Je vais traduire d'abord le sigle en anglais, parce qu'en anglais, RSPO, ça veut dire Round Table on Sustainable Palm Oil, qui veut dire table ronde sur l'huile de palme durable. C'est quoi la RSPO? La RSPO, c'est une association à but non lucratif qui regroupe les acteurs, les parties de l'industrie de l'huile de palme. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a globalement sept parties. Il y a les ONG, il y a les OSC, il y a les banques qui financent la production de l'huile de palme. Il y a les organismes de seconde transformation, de deuxième, troisième transformation, etc. Son objectif, c'est quoi? C'est de développer des normes pour la production de l'huile de palme durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association se crée, bon, existe depuis 2004. Et pourquoi? Parce que l'huile de palme avait été identifiée comme étant à l'origine de la déforestation dans plusieurs pays du monde. Et conscient que le palmier à huile est l'huile végétale la plus utilisée dans le monde, il fallait trouver le moyen de continuer à produire de l'huile de palme, mais de façon durable.
Et quand on dit produire l'huile de palme de façon durable, cela renvoie à quoi? En étroite relation avec la RSPO.
Disons que ceux qui ont pensé la RSPO au début, lorsqu'ils voyaient la RSPO, c'était principalement trois éléments. C'est-à-dire comment produire l'huile de palme en protégeant la biodiversité, comment produire l'huile de palme en limitant la déforestation et comment produire l'huile de palme en respectant les droits de l'homme. Là, on voit bien les droits des communautés riveraines, les communautés d'agriculteurs et de petits agriculteurs, les droits des travailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que ce qu'il faut noter, c'est que l'huile de palme, le palmier à huile, c'est une culture qui demande beaucoup de main-d'œuvre agricole. Donc, le niveau de mécanisation dans le secteur de l'huile de palme au niveau des plantations est très faible.
Alors, au contact avec les communautés du département de l'Océan, beaucoup de personnes nous ont dit, les gens de la RSPO sont venus ici, les auditeurs de la RSPO sont venus ici. Quelle est l'importance de cette étape, la descente sur le terrain d'un auditeur? Qu'est-ce qu'il recherche exactement?
Disons que la RSPO, c'est aussi, on va dire, pour les entreprises, un processus qui devrait aboutir à une certification. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et en tant que processus qui vise à aboutir à une certification, il y a des étapes à parcourir. Et parmi ces étapes-là, il y a justement ce contact avec les communautés. Je vais de façon ramassée, nous savons que la RSPO s'appuie sur 8 principes, autant pour moi, et plusieurs indicateurs et sous-indicateurs. Mais comme on est en train de parler des communautés, je vais m'arrêter sur quelques principes. Lorsqu'on regarde par exemple le principe 1, qui traite de la transparence, puisque vous avez parlé de la descente des auditeurs sur le terrain dans l'océan, il y a un ensemble de critères au niveau de ce principe qui suppose qu'on doit que les documents concernant l'entreprise doivent être accessibles aux communautés. Donc, lorsque les auditeurs viennent sur le terrain, en réalité, c'est pour voir quel est le niveau d'information qui est disponible sur l'entreprise au niveau des communautés. Il faut quand même noter qu'il s'agit bien des informations qui ne peuvent pas, dont la diffusion ne peut pas porter préjudice à la compagnie qui est en train de vouloir obtenir la certification RSPO. Donc, l'autre principe qui peut nous intéresser et dont on peut parler rapidement, c'est le principe 2 de la RSPO qui impose le respect des réglementations nationales et internationales. Donc là, en vigueur. Là, on voit bien que, comme toutes les autres certifications, la RSPO n'invente rien. En général, elle s'appuie d'abord sur les législations qui existent dans les pays et aussi sur les accords internationaux ratifiés par les pays. Donc, je vais prendre un exemple. Si la loi du Cameroun dit que pour attribuer, par exemple, une concession foncière à une entreprise, il faut que la commission consultative se tienne et que parmi la commission consultative, il doit avoir des représentants de la communauté. La RSPRO devrait, dans le cas, les auditeurs RSPRO devraient vérifier cela pour s'assurer que le principe 2, dont l'objectif c'est la conformité avec les législations, a été respecté. Je pense que ce serait bien aussi qu'on parle des principes qui sont liés à l'environnement et aux droits de l'homme. Je crois qu'on est là, on est au niveau du principe 5, 6 et 7. Et là, ce qu'il faut constater, c'est que là aussi, il y aurait difficilement des éléments en marge de la législation. Des législations, autant pour moi, parce que la production du palmier à huile, ce n'est pas une seule législation qui s'applique. En réalité, vu le contexte camerounais où il y a plusieurs sectoriels qui interviennent, il y aura la loi sur l'environnement, la loi portant régime foncier domanial, et bien d'autres lois encore. Ce qu'il faut noter de spécifique, c'est que, par exemple, nos lois ne présentent pas le CLIP, c'est-à-dire le consentement libre, préalable et informé, comme étant un préalable à l'attribution, par exemple, des terres à une entreprise qui veut produire le palmier à huile. Mais la RSPO impose cela comme étant un critère qui permet d'évaluer les compagnies. Donc, on va retrouver dans la RSPO des éléments de nos législations, mais aussi des éléments qui sont un peu perçus comme étant des idéaux qui permettent, une fois combinés, de gérer durablement les terres, les ressources naturelles, de protéger l'environnement et de protéger les droits des communautés, des travailleurs et bien d'autres.
Nous allons rester un peu sur les communautés. Quel est le poids des déclarations des communautés à l'auditeur qui a été appelé pour faire certifier une agro-industrie de palme, par exemple?
Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, en principe, tel que le processus est conçu, les déclarations, toutes les déclarations des communautés peuvent influencer l'obtention de la certification de l'entreprise. C'est-à-dire, lorsqu'une communauté fait une déclaration, l'auditeur doit vérifier la pertinence de l'information, la véracité de l'information. Et en fonction des conclusions qu'il va mettre dans son rapport, l'entreprise pourra être certifiée ou non. Ça, c'est le principe. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que sur le terme, en général, parfois, les relations se créent avec l'entreprise et les auditeurs à un point où on peut remettre en question le rendu des auditeurs RSPO.
Parce que apparemment, c'est l'entreprise qui paye l'auditeur.
Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'entreprise qui sollicite la certification qui paye l'auditeur. Donc, je vois difficilement un auditeur dire à quelqu'un qu'il a payé, bon là, tu n'auras pas ton certificat, alors que le gars a déboursé des millions. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la certification coûte très cher. Et au Cameroun, quelques entreprises de production de palmier à huile seulement peuvent même débourser les coûts nécessaires à la certification. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le contexte camerounais, la certification de l'huile de palme, c'est une question. C'est une question, pourquoi? Parce que quel est le marché ciblé? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la certification, en général, c'est une affaire de réputation. C'est lié au marketing, c'est pour avoir un meilleur marché. Mais lorsqu'on est dans un contexte où le marché que cible le producteur n'est pas exigeant en matière de certification, that is the question. Est-ce que l'entreprise qui va vers la certification va juste pour être bien vue au niveau international, et c'est-à-dire prend quelqu'un qui va juste sur le terrain pour donner l'impression qu'il y a eu une évaluation, il y a eu un audit réel, ou alors c'est vraiment, l'entreprise est vraiment dans une optique de vérifier qu'il y a un respect d'un certain nombre de principes liés à la production de l'huile de palme durable.
Alors il y a 20 villages qui sont riverains de la Côte d'Ivoire au niveau de la plantation Kienke. La plupart des communautés et même des chefs traditionnels que nous avons rencontrés nous ont dit c'est maintenant que l'entreprise est en train d'améliorer ses relations avec nous. C'est maintenant qu'on voit des forages, qu'on voit telle chose. Est-ce que ces éléments, l'auditeur les prend en considération et ça peut influencer la certification de la SOCAPAN par exemple? Le fait que la structure améliore, entre autres, ses rapports, écoute les communautés, dialogue avec les communautés?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que là, on revient sur la parole des communautés. Quelle est leur observation et quel est leur rendu auprès des auditeurs? Si les communautés présentent l'entreprise comme étant dans une situation d'amélioration des pratiques, en matière de respect, par exemple, de son cahier de charge, en matière de respect des normes environnementales, en matière de respect de plans de développement local, souvent qu'ils ont signé avec les communautés riveraines, forcément, cela aura un impact positif sur la décision qui sera adoptée par les communautés lorsque les rapports seront produits.
Est-ce que, Michel Sonkwe, la certification RSPO, c'est à vie lorsqu'une agro-industrie l'a obtenue?
Non, la certification RSPO, lorsqu'on l'a obtenue, c'est pour une durée de 5 ans et renouvelable. Et durant les 5 années où le certificat est en vigueur, l'organisme de certification fait des audits chaque année sur le terrain. Donc, ces audits annuels sont une occasion pour les parties de faire des réclamations, de faire des revendications, de faire des contestations, si on veut utiliser le mot contestation, autant pour moi. Ne pensez pas que tout est fini. Le monitoring se poursuit sur le terrain. Vous pouvez continuer à documenter les impacts de l'entreprise sur vous. Vous pouvez continuer à documenter le niveau de respect des engagements pris par l'entreprise avec vous, parce que il y aura une audit certainement en mi-parcours, et après il y aura soit la fin de la certification, vous pouvez avoir l'opportunité d'être recontacté à nouveau lorsque l'entreprise va vouloir renouveler ses certificats. Si on peut dire que la plainte pendant le processus, parfois, est difficile à atteindre des résultats, vous avez l'opportunité de vous préparer, de documenter les faits que vous observez sur le terrain pour éventuellement mener des actions concrètes lorsqu'il y aura un processus de renouvellement du certificat.
Alors, mais d'une façon générale, la contestation d'une certification peut se faire après l'obtention de la certification par une entreprise?
Oui, tout à fait. Après l'obtention de la certification, s'il s'avère que lors des audits, et des parties, notamment les communautés, dénoncent des faits qui sont vérifiés et qui sont on va dire, considéré comme étant obligatoirement à respecter, on peut se retrouver dans deux situations. Dans la première situation, on peut assister à une suspension de la certification et au cours de laquelle on donne un délai à l'entreprise pour corriger les écarts observés, ou alors à l'annulation définitive de son certificat.
Est-ce que le processus implique, par exemple, une confrontation? Parce que les comités que nous avons rencontrés dans le département de l'Océan nous ont dit l'auditeur nous a reçus tel jour, à tel endroit. Bon, par la suite, il s'est retrouvé avec l'agro-industrie, la SOCAPAN. Alors, sauf que ce soit les communautés ou l'agro-industrie, chacun a présenté sa version des faits. Est-ce que dans le processus, on indique par exemple qu'il puisse avoir une confrontation publique, cette sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça d'audience publique, pour que l'auditeur puisse effectivement se faire une idée exacte, parce que là maintenant les deux parties sont là. Ça peut se faire?
Disons que lorsque vous regardez par exemple AFNOR, qui est un organisme de certification français qui fait de la certification RSPO, Il résume le processus en 5 étapes. Il dit, l'étape 1, ils appellent ça descente préliminaire qui est facultative. Après, ils disent audit. Et puis, la troisième étape, c'est restitution de l'audit. Donc, la restitution de l'audit, c'est quelque chose, c'est une action qui est multipartite en général. C'est une audience où, au cours de laquelle les parties se retrouvent et on présente les rapports aux différentes parties prenantes. Je pense qu'à ce stade-là, les communautés et les parties ont leur mot à dire. Maintenant, il faudrait que cela soit fait dans les règles de l'art, pas à l'organisme de certification.
Et à l'occasion, une communauté peut contester en disant « ce n'est pas ce que nous avons dit ».
Tout à fait. Puisque lorsqu'il y a un réunion multi-acteur et qu'on restitue un rapport auquel vous avez contribué, si on dit quelque chose qui ne vient pas de vous, vous pouvez lever la main. On n'est pas à l'église. Vous pouvez lever la main et dire clairement « ça, nous ne sommes pas d'accord avec ceci ». Maintenant, après, qu'est-ce qui en sera fait ? C'est de ça qu'il est question.
Alors, on va vers la fin de cet entretien. Est-ce que finalement, pour les communautés, c'est avantageux qu'on parle de RSPO autour de leur environnement ou pas ?
Oui, je pense que c'est une opportunité pour les communautés, déjà de savoir ce que c'est que la RSPO, surtout dans un environnement où il y a une entreprise qui est en train de vouloir obtenir une certification RSPO, parce que ça permet aux communautés, lorsque ces personnes viennent sur le terrain, de leur dire on aura besoin des rapports à la fin de l'audit. On voudra savoir quelles sont les mesures qui vont permettre les conclusions de vos rapports et les éléments de correction que vous suggérez à l'entreprise, par exemple. Je pense que c'est une opportunité pour les communautés de savoir ce que c'est que la RSPO, de participer, d'être consultées dans le cadre des processus visant l'aboutissement d'une certification RSPO, mais surtout d'avoir les rapports à la fin du processus.
Est-ce que cela peut contribuer à la gouvernance foncière? Puisque vous êtes dans une plateforme multi-acteurs sur la gouvernance foncière, est-ce que ça peut contribuer à la gouvernance foncière? Expliquez-nous au détail près.
Tout à fait. Je pense que lorsqu'on parle de gouvernance foncière, il y a un ensemble de principes liés au processus qui régisse le transfert des terres et la gestion des conflits liés de la terre. Donc, pour nous, la RSPO permet d'avoir un regard sur les plantations de façon globale. C'est-à-dire, est-ce que les plantations, les grandes plantations, respectent les lois des pays, notamment la loi foncière? Est-ce que les grandes plantations ont créé des conflits fonciers dans les villages riverains? Est-ce que les grandes plantations qui s'établissent respectent les droits de l'homme? Est-ce qu'il y a des ouvriers qui sont morts sur le travail ou bien qui ont été blessés et qui ont été enterrés comme il y a une époque, ça se faisait sans que personne ne soit au courant? Et là, on est, pour nous, en tant que plateforme multi-acteurs qui travaille sur les questions de gouvernance foncière, savoir qu'une entreprise est certifiée RSPO nous donne un outil pour aller faire de l'observation indépendante sur les terres et sur les droits des communautés.
Michel Sonkwe, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Koulimakele et de l'émission Land Voice.
Merci.
C'est ici que s'achève cette édition de Land Voice, un programme que vous pouvez écouter tous les lundis entre 10h et 11h sur Radio Nkouli Makeli. Une émission qui vous a été proposée avec l'appui financier de l'Union européenne. Land Voice est une production du réseau de lutte contre la faim RELUFA dans le cadre du projet LandCam mené en collaboration avec le Centre pour l'environnement et le développement CED et l'Institut international pour l'environnement et le développement, IIED. Merci à l'ensemble de l'équipe de production. Derrière le microphone de coordination, Emmanuel Juntap. À très bientôt sur les antennes.